Bonjour, vous écoutez FM Plus, 91 FM à Montpellier. C'est le 13e numéro de l'émission Le Fil du Fer, l'actualité. Plus ou moins actuelle des projets en tout genre et des chemins de vie. Te voir faire m'a donné envie. Else Bedou, membre du collectif Carbone. Zelda Adener, vous avez 28 ans, vous êtes née et vous vivez à Montpellier. Votre parcours scolaire, vous avez fait vos 2 années de classe préparatoire littéraire, une cagne et une hypocagne. Vous avez obtenu une licence en lettres qui s'est poursuivie par 2 masters. Un master littérature jeunesse option librairie, puis un master métier du livre et de l'édition. En ce qui concerne votre parcours créatif, vous pratiquez la photographie depuis l'enfance. Pour votre anniversaire, à 25 ans, vous faites écrire votre entourage amical sur ce que c'est qu'avoir 25 ans. Un recueil naquit de ce projet dont vous êtes la coordinatrice et l'éditrice. Vous êtes créatrice de fanzines. Montpellier est pour vous une ville dont le milieu artistique est à portée de main. Aujourd'hui, poursuivant la série sur le monde autour de l'atelier d'artistes Entrée Libre, c'est avec vos activités et avec votre parcours d'éditrice, de musicienne, d'autrice, que le fil du fer fait affaire. Par exemple, nous évoquerons l'aventure de Fragments, votre travail littéraire en cours, trouvable sur le net. Bonjour Zelda.
Bonjour Lionel.
Partons de là. Vous m'avez dit, Zelda, que vos professeurs de français au secondaire vous donnèrent l'envie de lire et d'écrire. Vous qui écrivez et lisez aujourd'hui, vous en avez fait une de vos cordes professionnelles. Comment expliquez-vous cette indifférence, voire ce rejet que professeurs et parents connaissent de la lecture et de l'écriture chez les adolescentes et les adolescents ?
L'expliquer, j'aurais un peu de mal parce que je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Moi, c'est vrai que les profs, dès le collège, même dès la primaire, m'ont donné envie de par leurs enseignements. Mais j'ai aussi baigné dans les livres. On m'a lu des histoires toutes petites jusqu'à tard, beaucoup. J'étais entourée de livres, ma mère en a énormément. Donc c'est vrai que baigner dedans, je pense que ça a forcément des effets. Et voilà, donc je conseille d'avoir plein de livres à la maison, des livres de toutes sortes, et d'emmener les enfants à la bibliothèque, en librairie, de leur faire découvrir tous ces univers-là.
Créer tôt des habitudes et des envies de lecture a pour conséquence, par exemple, en plus de faire du bien à la tête, de participer à l'économie du monde de l'édition. Vous êtes aussi éditrice de BD, je le rappelle. C'est lire aussi. Alors, est-ce que créer un public jeune, tôt, c'est quelque chose que vous demandez ?
Je sais pas, mais... C'est-à-dire créer un public jeune tôt.
De lecteurs, c'est-à-dire pour faire suite aux lecteurs, de dire on a des difficultés à lire, à faire lire et à faire écrire aujourd'hui des jeunes. Est-ce que vous pensez que c'est essentiel pour le monde de l'édition d'amener les jeunes à lire et à écrire pour justement participer à l'économie de l'édition ?
Oui, c'est très appréciable déjà. C'est vrai que si les profs arrivent à... donner envie aux élèves de découvrir des choses qui se font actuellement, de leur présenter des textes classiques qui sont en programme, qui sont essentiels, mais de dire, faire des ouvertures, dire par contre il y a ça aussi, regardez, il y a cette réécriture en BD par exemple de telle pièce ou de tel roman, jeter un coup d'œil, et c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui se font dans ce sens, et après ça peut être un wagon qui accroche vers d'autres découvertes, des œuvres originales. Voilà.
Est-ce que vous avez un texte à l'esprit qui vous a émerveillé en étant justement dans le secondaire ?
Dans le secondaire, j'ai commencé à découvrir le roman graphique, on va dire, la BD contemporaine. J'ai découvert Persepolis et après, je suis tombée sur des réécritures justement de mythes. Et ça, en BD, je trouve ça génial parce que d'avoir ces différentes visions, ces réappropriations, c'est très intéressant et ça permet d'explorer ces classiques, ces textes différemment, de façon plus approfondie.
Après le lycée, vous entrez en hypocagne, c'est-à-dire en classe préparatoire aux grandes écoles littéraires. Vous y entrez pour acquérir de la méthode et de la culture. Qu'en fites-vous ? De cette méthode et de cette culture, et de quelle culture parlons-nous ici ?
La prépa m'a apporté une façon de travailler plus facile, C'est-à-dire que j'ai adopté des mécanismes, de la structuration dans la construction. Donc ça, c'est vraiment, pour la suite, ça aide beaucoup quand on doit écrire à la fac, ce qui est un exercice quand même déjà difficile. La prépa, c'est... Moi, je ne me suis pas trop pris la tête. J'avais pas d'objectif très important, pas trop d'enjeux. Je sais qu'il y a des jeunes qui arrivent en prépa et ça, c'est hyper dur et... Ça se passe très mal et il faut essayer de vraiment pas se mettre trop de poids sur les épaules et de prendre ça comme pas du bonus mais des choses à voilà. Et la culture, qu'est-ce que j'en fais? Disons que j'ai dans un coin de ma tête un peu toutes ces choses que j'ai découvertes et c'est bien parce que je sais que je peux appeler certains auteurs maintenant quand j'ai besoin parce que je les ai découverts grâce à mes profs et voilà, c'est élargir la culture qu'on a quoi.
Voilà, vous finissez votre seconde année de classe prépa, c'est la cagne. Vous entrez en fac de lettres. Vous finissez votre licence de lettres. Savez-vous alors ce que vous désirez faire, Zelda? Comment pense-t-on à son avenir quand on a 21-22 ans? Est-ce que c'est la crainte ou bien l'attente sans l'inquiétude? L'attente de savoir quoi faire dans sa vie professionnelle?
Alors non, je sais pas du tout ce que je veux faire. Je sais que je veux pas être prof et que je veux pas faire de recherche. Et je découvre les métiers du livre. Je me dis ah tiens, ça a l'air intéressant. Il y a quoi? Il y a la librairie, la bibliothèque, l'édition. Et je trouve un master littérature jeunesse qui est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je fais ça et ça me plaît. Et après je me dis bon, faut que j'approfondisse et je fais un master métier du livre. Et c'était évidemment très stressant. On nous demande très tôt de choisir une orientation et je trouve ça assez dur.
Est-ce que pour nos auditrices et nos auditeurs, vous pourriez nous développer sur ce que vous avez appris durant ces deux masters, donc master métier du livre et de l'édition et master avec option librairie?
Alors dans le master littérature jeunesse, déjà on a exploré la littérature jeunesse, ce qui était vraiment très, très intéressant et c'est un univers qui est hyper riche. Là j'ai vraiment plus appris voilà, à découvrir comment fonctionne un album par exemple ou puis bien sûr la chaîne du livre, chose qu'on connaît pas forcément. Et dans le master édition, je l'ai fait pour vraiment approfondir mes compétences, apprendre à me servir de logiciel pour vraiment faire. Et voilà, donc les deux formations ont été complémentaires pour moi. Et ouais, c'est vraiment riche comme formation.
Alors nous reviendrons sur l'édition, mais quelle est la chaîne justement pour nos auditeurs? Qu'est-ce que c'est que la chaîne du monde de l'édition en quelques mots?
Alors simplement, on a l'auteur qui apporte un projet, l'éditeur qui lui dit ok d'accord, on le fait. L'éditeur souvent un diffuseur, distributeur, enfin d'abord... J'ai oublié, l'éditeur fait appel à un imprimeur pour avoir un objet qui existe, physique, et ensuite le fait passer à son diffuseur-distributeur qui, lui, à la fois va envoyer des représentants en librairie qui vont vendre le livre au libraire, et le libraire va vendre le livre au client.
Durant votre année de master métier du livre et de l'édition, une amie, une de vos amies, monte sa maison d'édition poésie et photographie. Et cette maison d'édition s'appelait, puisque je crois que l'aventure est terminée, donc cette maison d'édition s'appelait Charlotte Sometimes. Vous écrivez déjà, et je crois que vous faites aussi de la photographie en parallèle. Que vous demande-t-on et que produisez-vous? Est-ce être culotté que de se lancer dans une création qui a pour but d'être éditée et donc de rendre visible et donc public votre travail artistique?
Alors Charlotte Sometimes existe toujours et elle commençait à créer ce projet quand on était ensemble en cours et moi je trouvais ça fascinant, enfin, j'étais super admirative, je me disais ouais, c'est une grande, elle fait son truc toute seule. Et du coup, elle a fait un appel, je crois, pour une revue qui s'appelle Printemps, été, automne, hiver. Et j'ai proposé, ou elle m'a proposé d'écrire une petite nouvelle. Donc, c'était la deuxième fois que j'étais publiée parce qu'au lycée, j'ai écrit un journal intime à plusieurs mains avec plusieurs élèves qui a été édité par les éditions indigènes, qui ont édité Indignez-vous. Et là par contre c'était différent parce que c'était mon texte, c'était pas une lycéenne qui raconte sa vie, donc j'étais hyper contente. Et est-ce que c'était culotté de faire ça? Non, ça venait d'une envie et j'avais envie qu'on me lise, j'avais envie de le faire et ça a été fait dans la jouissance, on va dire, de ouais, allez, ça y est, on fait ça et c'est cool.
Et en tant qu'éditrice du recueil 25 ans, comment est-ce que vous avez procédé?
Ben justement, c'est Charlotte qui m'a donné envie de faire ça, qui m'a un peu inspirée. J'ai recueilli des témoignages de mon entourage, de gens que je connaissais sur l'âge 25 ans. J'avais envie de les faire écrire, de les faire parler de ça. Et j'ai recueilli tout ça, j'ai fait une maquette avec les compétences que j'ai acquises en master. Et j'ai fait appel à un imprimeur, conseillé par Charlotte toujours. Et voilà, j'ai eu l'objet fini. Et j'ai fait un lancement à entrée libre, c'était les débuts là-bas.
Je veux soulever ceci maintenant. Vous m'avez dit ne pas être en demande aujourd'hui de visibilité autre que celle que vous offre Entrée Libre, justement. Comme nous le verrons un peu plus tard dans la seconde partie de ce fil du fer. L'audience, je veux dire son importance en nombre, semble peu vous importer. Il y a des auteurs, des artistes, pour qui la reconnaissance la plus large possible est fondamentale. Quel est votre point de vue ?
Bah, c'était un peu hypocrite peut-être ce que j'ai dit, parce que évidemment que j'ai envie que ce que je fais soit vu, lu, apprécié. Après, je sais aussi que j'ai pas trop de contrôle dessus, et je réfléchissais à ça ce matin. Oui, je fais de l'autopromotion, je gère mes pages, tout ça, mais c'est pour l'instant, je veux juste continuer de faire, parce que j'ai encore plein de projets en cours, et j'ai juste envie de continuer à construire ça, et pour moi, je suis encore vraiment dans la construction, donc... Voilà, faut que je continue à faire des choses avant tout.
Justement, Zelda, ces choses. Pourriez-vous évoquer votre ambition à l'époque de l'université et aujourd'hui à 28 ans ? Quelle est votre ambition artistique et professionnelle ? Vous m'avez dit qu'écrire vous permet de ne pas devenir trop folle.
À l'époque de la fac, je pense que j'avais des œillères parce que j'essayais de voir le bout du tunnel. Comme je le redis, il y a beaucoup de stress dans les études. Donc j'étais pas... Et c'est un peu plus tard que j'ai pu, je pense, me détendre et commencer à créer et me dire « Allez, je vais faire ci, je vais faire ça ». Et par rapport à la folie, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans une chanson de L'Homme Pâle qui dit « La folie empire en restant sur place ». Et c'est vraiment ça que je ressens. Il faut que je continue à faire des choses. Et il y a une conférence très intéressante d'un médecin qui s'appelle Serge Marquis, que tu connais peut-être, que vous connaissez peut-être, qui travaille avec des gens qui sont victimes de burn-out et qui n'arrivent plus à rien en fait, qui sont complètement vidés. Et il parle de cette anecdote où une patiente vient le voir et il lui dit « Bon madame, est-ce qu'il y a quelque chose déjà qui vous a intéressé dans votre vie ?» Et elle dit « Oui, avant je peignais, oui. » Et il dit « Bon, bah, vous allez me faire un tableau. » Et elle n'y arrive pas, elle lui en veut, elle dit non, mais enfin vous me demandez de faire ça, je suis pas capable, là je peux pas. Et elle revient le voir, elle dit bah, j'étais sur mon canapé, je regardais le tableau comme ça, et puis je m'y suis mis. Et 4 heures se sont écoulées que j'ai pas vu passer, et au bout de 4 heures je ressentais une énergie que j'avais pas ressentie depuis des mois. Et voilà, il y a vraiment quelque chose de salvateur et de thérapeutique pour moi dans le fait de faire.
Vous avez ajouté une corde à votre arc. Vous faites de la musique depuis 5 ans. Vous jouez de la guitare. Vous composez des chansons à la guitare. Vous m'avez dit que la musique, c'est la joie de l'expression d'une sensibilité personnelle. Pas l'écriture ? Pas la photographie ?
La question piège. Bah, bien sûr que si. Chaque art a ses spécificités. Aucun ne prime sur les autres. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans la musique et surtout dans le chant, parce que c'est ça que je fais surtout, il y a une vibration corporelle. Et ça, c'est... Enfin, en fait, c'est directement son corps à soi dans le corps de l'autre, la voix dans l'oreille. Et c'est à la fois merveilleux et terrifiant. Donc, pour moi, il y a... Un filtre qui est enlevé par rapport à l'écriture, à la photographie peut-être. Après, du coup, moi, je chante beaucoup en anglais. Ça me permet de rajouter un filtre parce que sinon, c'est dur de se mettre à nu, en fait.
Nous arrivons à mi-parcours du fil du fer. Nous allons écouter votre choix, Zelda. Et votre choix, c'est Wake Up, composé et chanté par vous-même, Zelda Adener. Quelques explications sur ce choix et sur cette musique ?
Bah, pourquoi ce choix ? Parce que je suis opportuniste, je vais pouvoir passer à la radio, c'est génial. Et voilà un morceau que j'ai enregistré avec Louis Azemar, qui est prof à Victoire 2, et il a mis des petits arrangements sur ma guitare et ma voix.
Et pourquoi Wake Up ? Il faut se réveiller ?
Ouais, mais dormir c'est important aussi.
Alors on écoute. You wake in the dark, you wake. In the dark, looking for your shoes in the middle of the night. You run for your life, you run for your life. Try
trying to avoid that girl on your right. You toss and you turn, you toss and you turn. Maybe she'll wake up, maybe she'll wake up before you. She'll say your name, and she'll say your name. Hey, where'd you go? I need you to love me so. Hey, where'd you go? I need you to love me till dawn. You'll make a funny face, you'll make a funny face, and just pretend you need a glass of water, and then go back to bed and think all night long about why you didn't leave. Is this you, my love? Is this love or you that scares the shit out of me? That bores me to death. I wanna be alone. I want to be free, I just want to be on my own. One day she'll be gone, and then you'll realize that she was the one for you, that she was the one of your life.
Vous êtes toujours sur Radio FM+, 91 FM Montpellier. Vous écoutez le 13e numéro du Fil du Fer. Nous écoutons le parcours de Zelda Adener, musicienne, chanteuse, éditrice, autrice. Zelda, lors de notre conversation avant cet enregistrement, vous m'avez dit que ce que vous faites, l'écriture, la musique, l'édition, etc., etc., donne du sens à votre vie. Vous faites beaucoup de choses. Ce qui peut être considéré comme de l'éparpillement par certains. Le sens de votre vie, est-ce le foisonnement, Zelda ?
Chacun fait ce qu'il a à faire. Le foisonnement n'est pas vraiment un choix. En fait, je prends ce qui vient. Je ne sais jamais si quelque chose que je ressens et qui arrive va sortir en phrases courtes, en texte un peu plus développé, en chanson. Après, je pense que dans la globalité, je reste fidèle aux mots. C'est ce qui traverse presque tout ce que je fais. Même quand je dessine, j'écris des trucs, je crois. Donc, ouais, les mots sont le fil conducteur.
Ce numéro du Fil du Fer fait partie d'une série d'entretiens mettant en lumière le réseau créatif de l'atelier d'artistes Entrée Libre à Montpellier. Sont venus parler à ce micro Matt Conture, dessinateur, Frédéric Dupuis, illustratrice, oh c'est dur, Sandra Vérine, artiste pluridisciplinaire, Michael Clement, directeur des éditions de BD Six Pieds Sous Terre. Vous voici Zelda. Avant d'en arriver à votre projet d'autrice Fragment, que représente Entrée Libre pour vous, au-delà du fait que cela soit un atelier d'artiste ainsi qu'un lieu d'exposition?
Vous êtes des personnes extraordinaires et vous faites comme si vous ne le saviez pas. La première fois que je suis venue à Entrée Libre, j'étais en train de me balader le soir à Montpellier toute seule, gérer un petit peu, et je passe devant Entrée Libre et je dis oh, tiens, vous savez quoi, je rentre, je vois Matt Conture qui dessine, puis je lui dis est-ce que je peux dessiner un peu, parce que j'avais mon carnet avec moi, puis j'avais envie d'écrire un truc, de faire un petit dessin. Il me dit oui, bien sûr, alors je m'assois. C'est vrai qu'aujourd'hui, si c'était moi qui étais à la place de Matt et quelqu'un arrivait en me disant ouais, je peux me poser pour faire un dessin, je serais peut-être plus dubitative, mais c'est Matt quoi, c'est... Il a ouvert la porte et voilà, je me suis retrouvée après à fréquenter Entrée Libre. Et pour moi, c'est un lieu original, atypique. Personnellement, pour moi, c'est un lieu de travail, mais ça fait un peu office de maison, dans le sens un lieu à soi, avec des groupes, un groupe de gens proches, une famille en fait. Et c'est une histoire d'humanité qui se croise et d'univers artistique qui se regarde ou s'interpénètre, ça dépend des fois. Donc il y a plein de choses à voir, il faut venir absolument.
Il faut venir. Et c'est quelle est l'adresse ?
2 rue du Bail à Montpellier.
2 rue du Bail à Montpellier. Comment êtes-vous devenue éditrice à 6 pieds sous terre ? Et quelles qualités vous furent nécessaires pour devenir membre actif de l'association Entrée Libre ? Sous ces deux casquettes, qu'attend-on de vous ? Et quels rôles sont les vôtres, Zelda ?
Alors, 6 pieds sous terre, j'ai fait un stage là-bas pendant mon master. C'est ma prof, la directrice du master, qui m'a conseillé d'aller là-bas. Elle m'a dit, vous voulez faire un stage BD ? Il y a 6 pieds sous terre à Montpellier. Je fais, ah, je connais pas, d'accord. Donc j'ai pris contact avec Mickaël et bah voilà, j'ai été accueillie à bras ouverts. Puis par la suite, j'ai été réquisitionnée pour rester. Et voilà, je considère que j'ai beaucoup de chance parce que ça se passe bien et c'est très intéressant de travailler comme ça. Là aussi, il y a un vrai esprit de famille. Et pour 6 pieds et pour Entrée Libre, je fais plein de petites choses, de l'organisation, de la communication, des montages d'expos. J'ai du mal toujours à détailler, je pense que j'ai un peu trop la tête dans le guidon. Mais en tout cas, je découvre énormément de choses, j'apprends toujours. Et j'essaie d'apporter un petit peu mon énergie pour pousser en avant, améliorer comme je peux. Et j'imagine que c'est ça qu'on attend de moi et qui est apprécié.
Mon oreille s'est ouverte au moment où vous avez dit il y a un esprit de famille. Est-ce que vous pourriez le décrire, cet esprit de famille ? Qu'est-ce que c'est qu'une famille, que la famille Entrée Libre, 6 pieds sous terre ?
Déjà, c'est des relations humaines qui sont parfois même dans l'intime, on va dire, où on parle de nous vraiment. On est ouverts les uns sur les autres et j'imagine que c'est pas comme ça dans tous les milieux de travail. Par rapport à 6 pieds, je pense que Mickaël en avait déjà parlé. Il y a un esprit de groupe, de crew, de gang presque, mais en douceur. Hein. Où voilà, quand on se retrouve, on bosse ensemble, on va dire toute l'année, avec les auteurs, entre nous. Puis les moments où on se retrouve au festival, c'est allez, on mange tous ensemble et on fait la fête et on se retrouve. Et là aussi, on se parle de nous. Et ça, je pense que c'est moteur aussi pour le reste, pour le travail, pour la création.
Le festival, c'est le festival d'Angoulême dont vous parlez.
Notamment.
D'autres festivals. Ah, ben, il faudra que j'apprenne au-delà du festival d'Angoulême. Qu'expose-t-on à Entrée Libre ? Parce qu'il y a une salle maintenant qui a été aménagée pour des expéditions. Oui, des expéditions et des expositions. Quels sont les artistes ? Quelles sont les esthétiques que Entrée Libre défend ou souhaite montrer ?
Alors, c'est assez vaste. Au départ, c'était juste les travaux des membres. Et en ce moment, c'est vrai qu'on expose des proches de l'atelier. Et on expose quoi ? Du dessin, de la peinture. On a exposé Willem l'an dernier, on était assez honorés pour son travail avec le xylograveur C'est toi Jean-Marie Picard. Et en tout cas, voilà, on est sur une programmation assez alternative et underground. Des choses, par exemple, qu'on va pas pouvoir trouver dans des galeries peut-être plus conséquentes, je sais pas. Et ça, c'est un univers que moi, je continue de découvrir. Ça fait pas longtemps, en fait, que j'ai découvert cette culture-là. Et j'ai mis un pied dedans grâce à 6 pieds, Entrée Libre.
Avant de venir à Fragments, tout à l'heure, vous m'avez parlé de la fabrique de fanzines, qui est un projet avec la Comédie du Livre. Est-ce que vous pourriez développer, dire un petit peu ce qui est dans la marmite, ce qui est en train de bouillir ?
Alors en fait, cette année, c'est pas dans le cadre de la comédie, mais ça sera en même temps. On a décidé de faire venir la fabrique de fanzines, qui est un atelier mené par des auteurs comme Alex Baladi, Ibn al-Rabin. Et en fait, ils font un super atelier où ils viennent, il leur faut juste une photocopieuse, ils prennent du matériel, papier, un petit tourne-disque pour mettre Anne Sylvestre et d'autres musiques. Et ils font faire du fanzine en continu, on peut venir faire ses pages, ils guident un petit peu, ils en font et... Je trouve que pour découvrir le fanzine, c'est vraiment une initiation merveilleuse. Donc ça sera, je sais plus, le samedi 18 mai, il me semble, à partir de 14h. Donc je vous encourage à venir jeter un œil.
Nous y sommes maintenant. Prenons le temps de parler de Fragments, votre projet littéraire, Zelda. Qu'est-ce que Fragments ? Ces fragments peuvent être lus sur Internet. Il suffit de taper www.fragmentorium.wordpress.com. Ne vous inquiétez pas, chère auditrice, cher auditeur, les liens seront sur la page du fil de fer, sur le site de Radio FM+. Alors, Fragments, Zelda.
J'en ai dit un ou deux tout à l'heure. C'était ça, les phrases bizarres. Fragments, c'est mon projet le plus conséquent, qui est toujours en construction. depuis, je crois, depuis 2014. Et c'est des phrases, en fait, des phrases, de la poésie, des textes très courts. Le projet, c'est un peu comme un bloc-notes où je noterai des phrases qui me passent par la tête, que je retravaille un petit peu. Et c'est aussi pour moi une aventure où chacun peut se trouver. C'est-à-dire que un tel va lire une phrase, il va se dire « Ah mais ouais, ça me parle. » Et parce que je l'ai déjà entendu, en fait, de la bouche d'autres. Et les fragments, c'est souvent des ressentis, des sensations qui me traversent, que j'ai envie d'exprimer de façon à la fois un peu brute, mais avec cette touche de poésie, de retravail dessus. Ça peut être du jeu sur les mots, ça peut être de la sonorité ou juste des images aussi.
Est-ce qu'il vous est possible, puisqu'on a entendu à l'intérieur de vos réponses, au début de vos réponses, quelques autres extraits de fragments ?
Oui, par exemple...
Vous êtes timide.
Les amis sont le courage qu'on n'a pas. On n'est jamais que ce qu'on fait. Il y a un peu une dimension d'aphorisme aussi dans ce que j'avais choisi pour aujourd'hui. J'étais ce que j'avais toujours voulu être. Je sens glisser sur moi une matière poétique. Et les mots reviennent avec toi. Voilà.
Merci Zelda. Zelda, vous ne vous dites pas écrivaine. Est-ce une forme de pudeur, d'humilité de votre part ? Que faut-il pour être alors nommé de la sorte ? Une légitimité ? Quelle légitimité, puisque vous écrivez et êtes auto-publié sur le net et sur les cartes postales que vous fabriquez ? J'en ai quelques-unes.
La question de la légitimité, c'est dur à dire déjà. C'est une histoire de représentation de ce qu'on fait et de ce qu'on est aussi. Alors, est-ce que c'est être publié chez Gallimard ou voilà, avoir cette légitimité éditoriale Oui, j'ai cette idée. Mais bon, je pense que juste quelqu'un qui écrit, en fait, c'est un auteur, une autrice. C'est une question que je n'ai pas vraiment résolue parce qu'on en avait parlé ensemble et... C'est vrai que je me sens pas forcément légitime de ce que je fais, parce que je me dis non, mais c'est des petits trucs, c'est des bribes, et puis voilà, c'est en construction, mais pourtant, moi je vois des choses que d'autres personnes font et qui sont pas si loin de ce que je fais, des petits fanzines de texte, et je me dis bah oui, non, oui, il est auteur, si on me demande, oui. Après, voilà, il y a un peu ce complexe, je pense, de pas faire partie du monde de l'édition, de pas avoir été édité quelque part où ça marque. Et c'est peut-être ça où est le complexe et qui est au final un peu une illusion parce qu'on s'en fout, quoi.
Oui, il faut le faire, peut-être. Dans le fil du fer, c'est aussi l'émission qui pousse à donner envie de faire. Je reviens un peu en arrière sur votre travail en tant que musicienne. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre album, de comment ça marche, comment l'idée vient, la musique vient, enfin, des questions que l'on pose très souvent aux créateurs et aux musiciens, cet album. Alors donc, quel est son titre ?
Alors, il s'appelle First Songs, parce que c'est mes premières chansons. Et voilà, là aussi, question de légitimité, il n'y a pas de prétention, c'est encore un peu... Voilà, j'y vais doucement, je sais pas trop, mais voilà, c'est des chansons que j'ai commencé à écrire il y a quelques années. C'est une amie qui m'a motivée à faire de la musique parce qu'elle faisait de la guitare, elle chantait, et moi ça, je trouvais ça génial. Et voilà, j'ai commencé avec elle, j'ai appris toute seule après, et bah, je sais pas, voilà, j'étais chez moi, et puis j'ai commencé à écrire des chansons. La première que j'ai écrite, en fait, j'étais à Angoulême, et j'étais en train de rentrer un peu sous la pluie, et j'ai commencé à écrire la chanson dans ma tête. Et ah, vas-y, je vais noter les paroles, et voilà. Et j'ai retrouvé mon ami, parce qu'à l'époque, je faisais pas encore la guitare. Je dis, bah, j'ai écrit ça, vas-y, on le met en musique. Et voilà, c'est né assez simplement, et une espèce d'envie, comme dit un de mes fragments, ce désir abrité dans le ventre.
Est-ce qu'il y a un fil rouge ? Est-ce que dans ce labyrinthe d'activités, il y a quelque chose qui tient, qui a un fil conducteur, l'écriture de la musique, l'écriture de fragments, l'édition, travailler au sein de, enfin être membre actif au sein de l'atelier Entrée Libre. Est-ce que vous avez vu ce qui fait un chemin ou des chemins ?
Bah, comme je disais tout à l'heure, déjà il y a les mots qui sont très présents. J'ai l'impression que c'est ma façon de faire. Et il y a aussi transmettre un regard sur le monde, ça je le retrouve aussi dans mon travail avec Sipia, avec Entrée Libre, c'est partager quelque chose. un discours qui vient d'une sensibilité et qui dit quelque chose du monde. Et ouais, maintenant ce que je fais, c'est je vois, j'absorbe et je ressens et j'ai envie de dire quelque chose à propos de ça.
Zelda, justement, qu'est-ce que le parcours que nous venons d'évoquer a mis au jour dans votre relation aux autres et au monde ?
Ben, on a besoin les uns des autres. Et c'est pas juste des mots, moi j'ai besoin d'être entourée, de voir ce que font les autres. Je me nourris de ça et je pense que ceux qui sont autour de moi se nourrissent de moi aussi, sans prétention. Je pense que je peux leur apporter des choses et puis c'est plus marrant de faire des choses à plusieurs aussi. Même si on a besoin hein, de faire les choses dans son coin, ça fait du bien d'être en groupe parfois. Et en très libre, on se montre nos projets, on en parle parce que c'est hyper important d'avoir un retour bienveillant, parce qu'on sait que les gens qui sont là sont bienveillants sur ce qu'on fait, et des critiques aussi, parce qu'il y en a évidemment, constructives. Et voilà, c'est tout.
Zelda Adener, avant de nous dire au revoir, je vous laisse redire la citation que vous avez proposée pour éclairer notre conversation. Mais avant de vous la laisser redire, pourriez-vous expliquer pourquoi vous vouliez partager cette citation et ce qu'elle révèle de votre parcours ? Et qui est Else Bedou, qui est l'auteur de la citation, et qu'est-ce que le collectif Carbone dont elle fait partie?
Alors, Else fait partie du collectif Carbone, c'est une créatrice, artiste. Carbone, c'est des jeunes qui ont monté ça, parce que ce qu'ils faisaient à l'école, ben, ça leur suffisait pas, ils voulaient aller plus loin, et c'est vraiment super, ils font des fanzines collectifs et individuels. Il y a beaucoup d'univers très intéressants et je vous conseille de les découvrir. Vous pouvez trouver certaines de leurs productions à entrée libre, notamment. Et cette citation, elle m'a beaucoup touchée. En fait, c'est un sticker que elle s'avait fait. Et quand j'ai lu la phrase, je me suis dit, oui, c'est ça, c'est complètement au cœur de ma pratique. J'ai lu beaucoup et j'écris. J'ai écouté de la musique toute ma vie et j'ai adoré ça et maintenant j'en fais parce que je pense que c'est ça qui m'a poussée et je vois les autres faire autour de moi, ça me donne envie, je fais comme eux, après je fais un peu à ma façon, je fais avec eux aussi et grâce à eux. Et pour un projet que j'ai fait là de fanzine où j'avais mis mes textes dedans, Gilles Rochier m'a dit mais ce truc en gros reste pas dans ton coin. Fais participer des gens, fais-les dessiner sur tes textes, fais un recueil, fais quelque chose. Et poussé par Gilles, j'ai réussi à récupérer 20 exemplaires de ce fanzine avec plein de dessins originaux et j'ai fait une expo. Et voilà, c'est bien de faire tout seul, mais qu'est-ce que c'est bien de faire avec les autres aussi, quoi.
Et alors, cette citation, pourriez-vous nous la redire ?
Bien sûr, c'est « Te voir faire m'a donné envie ».
C'était le fil du fer, merci Zelda, où l'on apprend que la différence entre faire et ne pas faire, c'est faire. Chère oreille et cher cerveau à l'écoute du fil du fer dans l'histoire des autres, je vous dis à bientôt pour l'émission numéro 14.